monde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
Bonjour à toutes et à tous. Comment nos territoires et en particulier nos villes peuvent s'adapter au changement climatique? Nous le savons, les vagues de chaleur à répétition mettent à dure épreuve les populations urbaines. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Béatrice Conneau, qui est maîtresse de conférences en économie à l'Université de Rennes 2 et membre du bureau du Haut Conseil breton pour le climat. Mais avant, direction la ville de Rennes, dont la mairie a initié lors de son dernier mandat la déconstruction d'un parking, le parking Vilaine, au-dessus du fleuve de la métropole bretonne. Retour sur les raisons d'être de cette déconstruction et sur les bienfaits attendus pour la population urbaine rennaise, c'est un reportage signé Valentine Bonnet de Canal B, votre radio associative locale à Rennes et dans sa région.
Quelques explications là, sur ce qui se passe dans les prochaines heures, dans les prochains jours, sur la fin du chantier de déconstruction. Donc déjà, merci d'être venus nombreux pour assister aux dernières heures du parking Vilaine. Donc aujourd'hui, on est en phase d'achèvement de cette déconstruction. On est en train de déconstruire le kiosque, enfin ce qu'il en reste. Et on va reprendre dans le courant de la journée donc la déconstruction de la dalle du parking, avec pour objectif, donc on pensait finir aujourd'hui, ce sera sans doute pas le cas, ce sera plutôt lundi ou mardi prochain, la déconstruction.
7 mai 2026. Les derniers mètres de la dalle du parking Vilaine vont être démolis dans quelques instants. À cette occasion, la ville de Rennes a organisé une visite presse et les journalistes sont venus nombreux et nombreuses.
De déconstruction qui est derrière vous, et puis on va ramener une deuxième pelle. Donc moi je suis Jean-François Papin, moi je suis conducteur d'opération à Rennes Métropole, donc en charge du projet d'aménagement des quais de Vilaine dans son ensemble. On va rendre les trottoirs et donc la nouvelle promenade le long de la Vilaine aux piétons autour du 8-9 juin prochain. Donc voilà un peu pour ce qui se passe dans les prochaines semaines et pour la fin de chantier de déconstruction. Et puis on démarrera à partir de cet automne l'aménagement des espaces publics proprement dit, avec des travaux de réseau et les premiers travaux de voirie sur l'espace public. Les ouvrages à construire, donc les gradins, des encorbellements qui viendront accompagner donc les futures stations de tram.
Cette visite presse, c'est l'occasion pour la maire de Rennes, Nathalie Appéré, de revenir sur l'objectif de ce grand projet, le découvrement du parking Vilaine, lancé lors de son dernier mandat. S'adapter au changement climatique en rafraîchissant et végétalisant le cœur de ville.
Selon les prévisions climatiques qui sont désormais des données connues, nous avons la perspective en 2040 d'un climat équivalent à celui de Toulouse. Donc là encore, on retrouve les 4 degrés, c'est-à-dire un réchauffement global et une intensification des phénomènes de chaleur extrême, avec des nuits tropicales augmentées et globalement une chaleur moyenne constatée équivalente à celle de Toulouse, ce qui est aujourd'hui un changement extrêmement significatif, rapide et significatif. Et puis ça, quoi que nous fassions, l'atténuation ne sera pas possible. Nous savons que d'ores et déjà c'est acquis, d'où la débitumation, la végétalisation.
Mais le découvrement du parking Vilaine et son aménagement, c'est aussi plus largement un projet qui répond à la question « À quoi souhaitons-nous faire de la place dans nos villes ?»
Christophe Cosette, je suis architecte paysagiste, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, donc en charge des aménagements globaux du centre de Rennes, là, donc, qui consiste à déjà découvrir le fleuve et à faire aménager 2 km de quai, la place de la République et les abords du palais du commerce. Donc ça inclut aussi la rue du Pré-Beauté derrière notamment. Il faut, à mon sens, reprendre le territoire qu'on a trop donné aux voitures. Donc là, c'est vraiment le cas avec la disparition de cet énorme parking là de 270 mètres de long, que les les personnes les plus fragiles, les enfants, les gens qui marchent, trouvent une place dans un contexte hyper urbain, hyper actif. Ça change du coup complètement l'expérience que l'on a pour aller faire des courses. Enfin, ça va être beaucoup plus agréable. Il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique aussi, de retrouver une place importante dans un contexte qui est très minéral et très artificialisé, une place importante au vivant. Ça, c'est essentiel. Donc, on va planter près de 5000 m², un demi-hectare de plantation, hein, donc avec près de 200 arbres et un cortège floristique qui va aussi permettre à la petite faune, aux insectes, de trouver un peu de place et d'équilibrer la ville, hein, tout simplement. Voilà, c'est des choses très simples donc, qui sont absolument nécessaires aujourd'hui.
Effectivement, déconstruire un ouvrage comme celui-ci, un parking, c'est assez courant, mais le fait d'être au-dessus de l'eau, c'est ça qui rend le chantier très particulier. Et avec un impératif hein, qui était de rien faire tomber dans l'eau. Et donc la mise en place d'un certain nombre de protections pour empêcher justement la toute chute de gravats dans l'eau qui était mise en place. Et c'est ça qui complexifie de manière importante le chantier, hein, puisqu'à chaque fois qu'on avance de 5 mètres, à chaque fois qu'on avance d'un pas, il faut remettre en place toutes les protections, s'assurer que c'est en place avant de pouvoir déconstruire. Alors quelques ordres de grandeur, donc c'est 6600 m² de parking à déconstruire sur 270 mètres de long. C'est 6 à 7000 tonnes de béton et acier qui constituent la structure du parking. Et c'est 1000 tonnes d'enrobé. On avait un enrobé en surface, hein, c'est 1000 tonnes d'enrobé qu'on a enlevé.
La découverture, tout s'est passé par le fleuve. Hein, donc il n'y a pas de camion. Hein, donc on déconstruit, on met les matériaux. Là, il y a 6000 tonnes de béton qui ont été concassées, grignotées, posées sur des barges et évacuées du centre-ville par voie d'eau. Donc et traitées plus loin sur des plateformes. Donc voilà, on trouve des solutions.
Les bénéfices du découvrement du parking Vilaine semblent évidents pour la viabilité de nos villes et notre capacité à y vivre correctement sur le moyen et le long terme. Mais ce projet est aussi un très bon exemple d'un aménagement urbain à l'équation subtile. Entre complexité du chantier en lui-même, la volonté de limiter les émissions carbone des travaux, mais aussi l'adhésion des riverains et des négociations nécessaires avec les commerçants et commerçantes de la zone.
C'est une très longue concertation, c'est des débats, des discussions sur la fréquentation du centre-ville qui faisait partie des craintes qui pouvaient être exprimées par des commerçants. Il y a à l'échelle du centre-ville quelques 6000 places avec un taux de disponibilité très important et donc les quelques 300 places que représentait le parking Vidal sont en réalité très faible au regard de l'offre globale de stationnement.
J'ai insisté sur ce qu'est l'ambition climatique de ce projet, mais il y a aussi une dimension d'embellissement, de valorisation, bien sûr du patrimoine naturel, mais aussi du patrimoine bâti. Et on regarde différemment le Palais de la République ou le bâti des quais au niveau de l'eau sur des proportions qu'avaient conçues de fait les auteurs de la canalisation, des proportions qui sont extrêmement intéressantes.
Le découvrement du parking Vilaine ne se limite donc pas seulement à une adaptation à l'urgence climatique, mais se fonde également dans un projet bien plus large d'attractivité du territoire. L'enjeu, là, est de créer de nouveaux usages à partir de rien, comme l'explique Camille Tac, paysagiste et urbaniste de l'équipe de Christophe Cosette, entendu plus tôt.
On a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, dans une ville, ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'en contexte périurbain ou même dans une ville, dans un parc. Ici, on est en milieu très, très anthropisé, alors qu'on vient découvrir en découvrant la Vilaine, mais on a quand même des contraintes très fortes de réchauffement climatique. Et on va chercher à planter des arbres sur les quais, mais on a aussi une partie des plantations qui est située sur dalles. Et ça veut dire que le sol se dessèche très vite. Et en plus, le climat va évoluer. Donc même si on dit qu'il pleut beaucoup à Rennes, de toute manière, les choses vont quand même sensiblement évoluer avec des contrastes climatiques très forts suivant les saisons. Et ça, c'est une donnée essentielle pour choisir les plantations. Donc comme le disait Christophe, on va vraiment chercher la variété d'essences pour résister aux maladies, pour résister aux besoins en sécheresse, en humidité, etc. Et tenir le mieux possible dans le temps. On plante pour 50 à 70 ans, voire plus, si c'est ce qu'on espère.
On est en train d'étudier un très très beau sujet qui est le cœur de Morlaix, voilà, la réouverture de la rivière, et encore une fois de profiter de cette occasion-là qui est nécessaire pour des questions d'inondation notamment, pour redonner un autre visage au cœur de ville, une autre attractivité, un autre dynamisme aussi pour les commerces, pour les habitants, et encore une fois trouver de nouveaux usages dans le cœur de Morlaix. Si vous connaissez, c'est pareil, c'est des grands parkings un peu à perte de vue là, et donc il y a évidemment beaucoup mieux à faire sans non plus bannir la voiture, hein. On n'est pas les, voilà, c'est, il faut des voitures quand même, il faut pouvoir se garer, mais il faut modérer un petit peu plus, partager l'espace maintenant.
Défaire ce qui a été fait a donc un coût financier, écologique, urbain. Mais c'est un calcul coût-bénéfice auquel de plus en plus de villes se livrent avant qu'il ne soit trop tard.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur ce lourd et coûteux chantier de déconstruction de ce grand parking rennais pour lutter contre les effets du réchauffement climatique en ville. Alors, pour aller plus loin sur ces enjeux et sur l'urgence de réagir pour nos cités, Valentine Bonnet de Canal B s'est entretenue avec Béatrice Queneau, maîtresse de conférences en économie à l'Université de Rennes 2 et membre du bureau du Haut Conseil Breton pour le climat. Béatrice Queneau est également spécialiste des politiques d'aménagement et de développement urbain durable des collectivités territoriales.
Par rapport aux impacts du changement climatique sur les villes dans les années à venir, ils vont être de plusieurs sortes. On va tout d'abord avoir une modification en fait des conditions climatiques moyennes, c'est-à-dire que en fait globalement là où nous avions par exemple une température moyenne annuelle de 12,6 degrés à Rennes, eh bien dans les années à venir, en fonction du scénario d'émissions de gaz à effet de serre que nous connaîtrons et des températures qui en résulteront, on pourra connaître une température moyenne qui pourra être de l'ordre de 13,5 degrés Celsius, voire plus, peut-être même de 15 degrés Celsius. Le deuxième type d'impact tient au fait que les événements météorologiques extrêmes vont être appelés à se modifier en intensité et en fréquence. Cela veut dire que, par exemple, les extrêmes de température que les villes vont être appelées à connaître en termes de vagues de chaleur ou de canicule vont être amenées à s'intensifier au point de vue des records de température enregistrés et vont devenir plus fréquents. Une autre variable à prendre en compte, c'est le fait que ces phénomènes de canicule ou de vagues de chaleur vont durer plus longtemps. Les autres impacts du changement climatique attendu, et notamment toujours en termes d'événements météorologiques extrêmes, vont concerner par exemple les inondations, qui vont considérablement augmenter là aussi en intensité et en fréquence. Et donc là aussi, si je reprends l'exemple par exemple de la ville de Rennes, en janvier 2025, à nouveau en janvier 2026, la ville a été fortement impactée par ces phénomènes d'inondation, et on voit bien que en dépit de l'adoption de politiques de prévention des risques, eh bien la planification urbaine pour s'en prémunir a été un peu débordée en fait par les événements. Par rapport aux impact du changement climatique et la manière de concevoir la ville, il est clair qu'il va falloir renoncer parfois à certains projets qui pourront soit être localisés finalement dans des zones qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement très risqués, mais qui peuvent être amenés à le devenir davantage dans les décennies à venir. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper les risques dans la manière de construire et de de bâtir sur le territoire. Et il faut se rendre compte que les conditions climatiques d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Ça veut dire aussi que dans les calculs coûts-bénéfices, il va falloir faire les coûts de manière différente. Un projet qui peut s'avérer rentable aujourd'hui peut ne plus l'être d'ici 20 ou 30 ans, parce que les coûts induits par les risques liés au climat seront tels que finalement toute la rentabilité du projet aura été totalement anéantie. Donc il faut envisager aussi sur les coûts des dommages futurs. Et de la même manière, au regard des matériaux que l'on peut utiliser dans les modes constructifs, il y a un vrai enjeu d'avoir des matériaux avec une meilleure inertie thermique, qui ne nécessitent pas de recourir à la climatisation, qui vont permettre effectivement d'augmenter l'albédo en fait des surfaces bâties en recourant à des matériaux de couleur claire ou qui vont davantage absorber la chaleur mais qui ne la rejetteront pas la nuit, parce que c'est un des phénomènes qui peut permettre d'atténuer fortement les îlots de chaleur urbains qui se manifestent surtout la nuit et qui se caractérisent par un différentiel de température important entre le centre-ville et sa campagne avoisinante. Et pour revenir à l'été 2022, à Rennes, on a constaté que l'écart thermique entre la ville, le centre-ville et sa campagne avait atteint 9 degrés Celsius. Alors qu'en temps normal, cet îlot de chaleur urbain est de l'ordre de 3 à 4 degrés Celsius. Ce projet de découvrement en fait de la Vilaine sur la portion du centre-ville de Rennes peut effectivement participer de ces stratégies d'adaptation par rapport aux nouvelles données climatiques urbaines. Les solutions qui passent notamment par la désimperméabilisation des surfaces ou leur déminéralisation est une stratégie qui peut s'avérer très efficace dans la mesure où ça va permettre deux choses. D'abord, en cas de vague de chaleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut permettre de réduire considérablement l'inconfort thermique. Ça peut permettre aussi d'absorber, par exemple, les eaux de pluie en cas de forte pluie et éviter les phénomènes de ruissellement. Et donc ça peut avoir ce premier effet bénéfique. Ça peut aussi permettre d'avoir un moindre coût énergétique dans les aménagements des espaces, parce que bitumer une place de 200 mètres carrés, ça coûte énormément d'argent et ça a un coût énergétique aussi considérable. Et un certain nombre de villes, par exemple, commencent à réfléchir aussi à l'utilisation de matériaux, comme par exemple des dalles évapotranspirantes qui peuvent permettre, par exemple, de rafraîchir la ville en cas de vague de chaleur. Et c'est vrai que de découvrir le cours d'eau en milieu urbain peut permettre aussi aux habitants de se réapproprier en quelque sorte les fleuves et les rivières en ayant conscience de leur présence et des risques qu'ils représentent. Et donc cohabiter en fait avec les risques peut permettre de mieux se les approprier et d'agir en conséquence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métropoles ou de grandes villes qui se lancent dans des expérimentations à la taille de certains quartiers ou de certains îlots pour envisager des solutions innovantes et qui notamment sont intéressantes dès lors qu'elles vont faire appel à des solutions plutôt low-tech que high-tech, hein, qui vont être beaucoup moins coûteuses à mettre en place et à faire fonctionner au quotidien. Par exemple, si je reviens sur la question de la prévention du risque inondation, par exemple, il y a un enjeu à ce qu'il y ait une acceptation du risque de la part des villes et de leurs habitants. Et ça peut passer notamment par ce qu'on pourrait appeler des stratégies d'amélioration de la résilience urbaine et faire en sorte de pouvoir vivre avec le risque plutôt que d'essayer d'y résister. Et donc il y a eu notamment dans le Grand Paris, certains quartiers expérimentaux qui ont commencé d'être construits avec par exemple des immeubles sur, c'est des sortes de terrains en fait qui font que lorsque l'eau monte, eh bien la hauteur de l'immeuble, enfin l'immeuble s'élève en fait avec la montée des eaux. Et donc là aussi, ça peut être des solutions technologiques, alors certes coûteuses, mais qui peuvent permettre d'adapter le bâti existant à l'évolution des risques. Et puis, il y a évidemment les solutions fondées sur la nature qui là aussi progressent, avec notamment la végétalisation des façades ou des toits. Mais là encore, il convient de veiller au type de végétalisation que l'on va mettre en place, parce qu'il faut que le substrat des toits soit suffisant, qu'il soit suffisamment humide, que les plantes soient suffisamment résistantes aux conditions climatiques pour jouer leur rôle. Et c'est un véritable enjeu. Et il faut aussi prendre garde au fait que dans la végétalisation des espaces urbains, toutes les espèces d'arbres ou de plantes ne seront plus adaptées au climat de demain. Donc il faut faire attention aussi à ce que les essences que l'on plante aujourd'hui soient adaptées au climat futur, sachant que par exemple les chênes sont très vulnérables aux évolutions climatiques actuelles et qu'il va falloir planter d'autres essences d'arbres, peut-être plus méditerranéennes, que l'on n'avait pas l'habitude de croiser fréquemment dans nos villes, et tout en évitant aussi d'augmenter les phénomènes d'allergie au pollen, donc tout en veillant aux essences d'arbres que l'on plante. Donc il faut des arbres plus résistants aux vagues de chaleur, aux phénomènes de sécheresse, résistants également à certains phénomènes parasitaires qui progressent avec l'évolution des conditions climatiques. Donc c'est tout un ensemble de paramètres complexes à prendre en compte. Les solutions ne sont jamais des solutions miracles. Il faut prendre en compte beaucoup de paramètres pour que ça soit efficace et bien veiller à prendre en compte les effets rebonds ou les effets pervers que peuvent avoir telle ou telle solution.
Vous venez d'écouter Déjà Demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produite par la CorLab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Onde Durable.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts.